Bon matin, Hélène Gravel.
Bonjour, Steve.
On va se parler de souveraineté un petit peu ce matin parce que, évidemment, le départ de Catherine Fournier hier a amené plus de questions que de réponses, je pense, sur le mouvement souverainiste.
Bien, ce qu'on sait, c'est qu'elle quitte le caucus du Parti québécois pour siéger maintenant comme indépendantiste, indépendante. Donc, députée indépendante, mais à saveur souverainiste.
C'est-tu pas assez souverainiste à ton goût,
oui,
ça,
c'est
hein?
Ça, absolument. Et bien sûr, il y a des rumeurs, on en a parlé un petit peu hier, qui disaient qu'elle allait fonder un autre parti souverainiste avec notamment Jean-Martin Hassan, ce qui serait épouvantable parce que là, ça viendrait diluer le vote souverainiste si le Parti québécois reste en vie, puis j'y reviendrai, avec Québec solidaire qui se dit souverainiste, quoique parfois je me pose des questions, le Parti québécois, puis un éventuel troisième parti. Donc ça, ça ferait le grand bonheur des fédéralistes et ça diluerait le vote souverainiste. Mais j'ai de forts doutes sur la création d'une troisième avenue, notamment... parce que le Parti québécois, en tout cas, songeait à se prendre en main, donc voulait faire un grand chantier des idées. Mais une chose est certaine, Steve, c'est que on se pose la question, est-ce que le Parti québécois va demeurer, puis est-ce que l'option souverainiste va croître ou va stagner ou va tout simplement disparaître? Mais une chose est certaine, c'est que le problème du Parti québécois, à mes yeux, à moi, c'est qu'il a arrêté de parler de souveraineté. Depuis plusieurs années d'ailleurs, depuis beaucoup trop longtemps. Et pourquoi est-ce qu'on votait dans un premier temps pour le Parti québécois? C'était justement parce qu'on était des nationalistes ou à tout le moins des souverainistes.
C'est devenu tabou, Hélène.
Oui, je le sais, parce qu'on ne voulait pas déplaire à une certaine frange de la population. Puis on se disait, notamment, les jeunes ne veulent pas en entendre parler. Mais à force de ne pas en parler, comme la nature a horreur du vide, ça a créé, entre autres, Québec solidaire. Et en plus, ça a fait en sorte qu'on associait la souveraineté à la gauche. Mais avant de faire un pays, il faut toujours bien avoir de l'argent pour pouvoir offrir des services sociaux à la population.
Mm-hmm.
Mais ça aussi, c'est tabou dans le mouvement souverainiste de dire on pourrait peut-être se tourner un petit peu vers la droite, forcer sur l'économie, créer de la richesse, faire un pays, puis par la suite offrir des services.
Mais ce matin, là, tu parles souveraineté, là, puis il y a un paquet de monde dans leur voiture. Ils vont dire « Ah, gars, le vieux débat niaiseux, puis... » C'est-tu encore pertinent en 2019? Est-ce qu'il y a une façon de vendre la souveraineté alors que il n'y en a plus de frontières? Tu sais que le web, que maintenant, le client que tu as en Californie, tu lui parles à tous les jours, que la planète est devenue une espèce de gros village global. On en parlait il y a ça 15-20 ans, mais c'est devenu une réalité. En quoi la souveraineté, ça peut être encore pertinent en 2019?
Ben, en fait, je pense que c'est pertinent si on prend du recul puis on se dit, est-ce qu'on serait mieux, par exemple, à l'extérieur du Canada puis de devenir un pays souverain? Lorsqu'on regarde actuellement les sondages, on l'a vu, la province la moins aimée à travers tout le Canada, c'est le Québec. Mm-hmm. Parce qu'on nous prend pour des chialeux, on est un peu tanné du fait français, ça coûte cher, etc., etc. Ce que je pense, c'est que la souveraineté a toujours sa place, mais encore faut-il avoir l'audace puis le courage d'en parler, puis de faire rêver les gens. Ce qui est triste, Steve, c'est que, puis je pense que l'expérience nous le démontre, c'est que les gens, malheureusement, ne voteront pas nécessairement pour l'idée, mais vont voter pour l'image. On le voit avec Justin Trudeau, entre autres. Puis on le voit aussi avec Donald Trump. Il ne faut pas se le cacher.
J'ai de la misère à ne pas dire que tu as raison.
Depuis combien de temps le Parti québécois, parce que c'était le porteur de la souveraineté autrefois, puis encore aujourd'hui, depuis combien de temps le Parti québécois n'a-t-il pas eu une image forte et charismatique pour véhiculer l'idée de la souveraineté?
Mais dans ce cas-là, elle a bien fait, Mme Fournier. Elle va aller avec Jean-Martin Hossain et ce sont deux porte-étendards de bonnes images pour la souveraineté, non?
Non.
Parce que pour l'image, eux, ils l'avaient. Ben,
Madame ça Fournier, dépend ce qu'on entend par
c'est
l'image.
Ça. Mme Fournier a de la difficulté à s'exprimer. Là, je pense
c'est
qu'on va en convenir.
Mais est-ce que, à mes yeux, puis peut-être que je me trompe, peut-être que c'est le cas pour les jeunes, mais est-ce qu'elle représente un leader charismatique qui va être capable de me vendre un pays? Est-ce qu'il va être capable de me faire rêver?
Mm-hmm.
Depuis Lucien Bouchard, j'en ai pas vu beaucoup, moi, des gens qui avaient ce bagout-là, mm-hmm. puis aussi qui inspiraient cette confiance-là, qui portaient les gens à le suivre. J'en ai pas vu beaucoup qui représentaient la souveraineté.
Monsieur Hossain, un petit peu?
Pas du tout.
Non?
À mes yeux, à moi, pour moi, non.
Non?
Jean-Martin Hossain, pour moi, c'est un peu une girouette. Arrive, repart,
mm-hmm.
un opportuniste aussi.
Okay.
Puis c'est un peu l'image qu'il laisse. Hier, j'écoutais des gens en parler. Qu'a-t-il fait?
Promis. Les promesses.
Ben voilà. Il a fondé un parti qu'il a quitté. Il est revenu à un parti qu'il a encore une fois quitté pour y revenir par la suite, mais pour ne pas y rester.
Mm-hmm.
Alors, est-ce que c'est ça vraiment un leader? Ou est-ce qu'on attend d'un leader quelqu'un qui va avoir des idées suffisamment bien ancrées pour nous les vendre et pour nous faire rêver? Jean-Martin Hossain m'a jamais fait rêver, en tout cas pour moi, m'a jamais fait rêver de quoi que ce soit.
Hélène, le PQ est mort, vive le PQ?
Non, absolument pas. Je pense que le PQ, s'il a l'audace de se tourner un petit peu plus vers le centre, et pour ne pas dire le centre droit, va avoir des chances de survivre. Et s'il va chercher des porte-paroles qui nous attirent.
On change de sujet. En Grande-Bretagne, 53 % des gens affirmaient en 2015 n'avoir aucune religion. Des statistiques qui sortent du Centre national des enquêtes sociales de Grande-Bretagne. Et on se rend compte qu'en Occident, le nombre de sans religion est en forte progression.
Mm-hmm. Ça fait référence à un papier écrit par Denise Bombardier que j'ai trouvé fort intéressant. On parle de la nouvelle force politique qui est une force non religieuse. Tu sais, on le sait, notamment aux États-Unis, il y a des fondamentalistes religieux qui font l'appui puis le beau temps, entre autres dans le Parti républicain.
Auquel s'est collé d'ailleurs M. Trump.
Tout à fait, absolument. Mais on voit également que le tiers des Américains actuellement disent ne pas pratiquer aucune religion, ne pas s'associer à aucune religion. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'aura pas le choix aussi de tenir compte de ces gens-là dans le discours, parce que, tu sais, je regarde entre autres ici, un peu moins, mais aux États-Unis, on ne commence pas ou on ne termine pas un discours sans parler de Dieu.
Mm-hmm.
Maintenant, si tu veux aller chercher ces gens-là, il va falloir que tu fasses les choses autrement. Mais aujourd'hui, à mon avis, tu sais, Marx disait la religion, c'est l'opium du peuple. Aujourd'hui, la religion, elle a été transformée par les médias sociaux. Et avant, on posait des questions à Dieu pour avoir des réponses. Aujourd'hui, on les pose à Facebook.
Et Google,
et absolument.
Peut-être que c'est là la force de M. Trudeau. Il s'y retrouve. Merci, Hélène.
Encore faut-il avoir quelque chose à dire.
Ouais. L'image! Ah, l'image! Le contenu après. On verra.
Bonne journée.
Merci, Hélène. À demain.